Souvenez-vous que Saint Jean, précurseur, le précurseur, Saint Jean le Baptiste, et pas Saint Jean-Baptiste, dès le sein de sa mère, a intuitivement, probablement, senti la présence du Messie, du Sauveur, lui-même dans le sein de sa mère. Nous en avons le récit pour la Sainte Rencontre. Donc, il est prophète en ce, aussi dans ce sens qu'il a su reconnaître, alors qu'il n'était encore qu'embryon, il a su reconnaître celui qui était en train de s'incarner. Premier point. J'essaie de résumer beaucoup. Deuxième point, il est appelé l'ami de l'époux, parce qu'il aimait son cousin. Et il l'aimait d'un véritable amour, d'un amour de charité, pas d'un amour de cousinade, si je peux l'appeler comme ça, d'un amour affectif. Mais parce qu'il il aimait les Saintes Écritures, il aimait la révélation, il aimait les promesses que Dieu avait faites à son peuple, il attendait la réalisation de ses promesses, et dans son enfance, après sa naissance, dans son enfance, il a, à travers les Saintes Écritures qu'il apprenait par cœur à la synagogue, à travers les célébrations, les sacrifices qu'il offrait avec ses parents et avec tout le monde, avec tout le peuple, dans le temple de Jérusalem, il a perçu, il a deviné, il a eu la révélation. Le Saint-Esprit lui a aidé à comprendre comment son cousin Jésus était le Messie qui était tant attendu. Troisième point, Jean-Baptiste est un témoin. Il est témoin du Messie, justement. Quand on vient le trouver, alors que Jésus passe non loin de lui, il le désigne à tous en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. » Il témoigne de qui est aujourd'hui, c'est-à-dire au moment de l'épisode que j'évoque, est passé auprès de lui. Autre point, au baptême, nous voyons Jean qui touche la lumière incréée, qui touche le Christ, malgré l'indignité qu'il confesse. Comment moi, une créature, comment je peux te toucher, toi, le Créateur? Laisse faire, ainsi doivent être faites les choses, dit le Seigneur. Mais il surmonte sa propre faiblesse par la grâce de Dieu et il ose toucher son Sauveur. Mais ne croyez pas que c'était si facile que ça. Saint Jean précurseur est aussi prophète parce que nous lisons dans sa vie, que je ne veux pas développer aujourd'hui pour ne pas vous manger trop de temps, nous voyons qu'il est passé aussi par l'épreuve de la foi. Alors que pendant une trentaine d'années, tout le temps qui a précédé la vue publique du Christ, il commençait à comprendre, à sentir et à adhérer à la révélation qu'il avait que celui-ci était l'agneau de Dieu. Il envoie dire à son cousin Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou doit-on attendre un autre ?» Autrement dit, pour lui, l'action, la révélation, le début de la vue publique du Christ et son silence pendant 30 ans, pendant toute sa vie cachée, était un mystère. Il attendait, lui aussi, avec tout le peuple, que le Messie vienne restaurer l'Israël. Et jusqu'à présent, le Christ n'a rien fait. Donc, Jean-Baptiste a la tentation qu'a tout homme de dire « Es-tu vraiment celui qui doit venir ? Ou est-ce qu'il faut encore en attendre un autre ?» Devinez toute une épreuve de foi derrière cela. À la suite de ça, à la suite de cette épreuve, Jean-Baptiste ne démord pas. Il reste fidèle à cette foi. Cependant, il y a une autre épreuve. Une autre épreuve que nous, on pourrait apparenter à de la jalousie, mais qui n'est pas de l'ordre de la jalousie du tout. Ses disciples, à lui, disent « Regarde, Jean, tous tes disciples, ils sont en train de t'abandonner pour aller suivre Jésus. » Donc, tout ce qu'il a monté, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a prêché, tout d'un coup, s'évanouit. Tout d'un coup, ça n'existe plus. On se détourne de lui et on s'attache à celui qui n'a encore donné aucune preuve, Jésus. Que seule la foi dans les Saintes Écritures et dans ses expériences intimes de jeunesse peuvent faire croire que c'est le Messie. Et malgré cette tentation de doute, cette tentation de la foi, et cette tentation de voir l'inutilité de son œuvre et la trahison, je mets des guillemets, de ses disciples qui s'en vont trouver ce Jésus, malgré tout, il termine par un acte de foi en disant « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Et tout ça s'achève par une diminution telle, un effacement tel, qu'il finit en prison, emprisonné par Hérode, ce que nous célébrons aujourd'hui, et il a la tête tranchée pour avoir dit la vérité. Voilà en gros, très en gros, les quelques aspects particulièrement saillants de la vie et de la vocation de Saint Jean, le précurseur. Et si je vous dis ça, c'est pour en arriver à autre chose. Quand vous voyez, pas à autre chose, à un autre aspect, pardon. Quand vous voyez l'icône de la Déesis, vous voyez le Christ au centre. À sa droite, il y a la Mère de Dieu, et à sa gauche, il y a Saint Jean précurseur. On comprend que la Mère de Dieu soit à la droite de son Fils. Mais pourquoi Jean le Baptiste plutôt qu'un autre? Parce qu'il était prophète? Oui, certainement. Mais la présence de Jean-Baptiste, d'après tous les commentateurs habituels de l'icône de la Déesis, comprennent que Saint Jean-Baptiste représente le genre humain dans l'attente encore de la révélation du Christ Pantocrator. La Mère de Dieu, elle l'a portée. Donc sa place est là. Elle est déjà, on connaît son histoire, elle est déjà déifiée, elle est déjà sanctifiée, elle est déjà assise dans le royaume des cieux, rayonnante de la gloire de Dieu lui-même et ressuscitée. Saint Jean-Baptiste, lui, il est encore dans l'attente de tout ça. Et en quelque sorte, il représente tout le genre humain. Il nous représente tous. En parallèle avec la Mère de Dieu, mais dans l'attente encore que se réalise pour lui, donc pour nous, ce qui a déjà été réalisé pour la Mère de Dieu. Et en ce sens-là, il est encore précurseur. Pas simplement précurseur de la venue du Christ, mais précurseur de notre propre histoire, de notre conversion, de notre salut. S'il en est ainsi, et il en est ainsi, s'il en est ainsi, reprenons donc, si vous voulez bien, tous les points qui font que je vous ai brièvement décrit de la vie de Saint Jean-Baptiste, et voyons comment ça s'accorde avec nous, comment il nous représente. Dans le sein de sa mère, il a donc un pressentiment. Et alors, ce pressentiment, ce n'est pas le vôtre? Depuis que vous êtes dans le sein de votre mère, c'est-à-dire l'Église, est-ce que vous ne pressentez pas aussi la venue du Sauveur? Est-ce que vous ne pressentez pas aussi que, comme l'Église l'affirme, dans le pain et le vin auquel vous communiez, vous êtes en communion avec le Christ mort et ressuscité? Est-ce que vous ne pressentez pas qu'à travers cette communion à un Christ réellement présent mais invisible, vous participez déjà à quelque chose de la transfiguration qui sera la vôtre en plénitude? Saint Jean-Baptiste est notre précurseur. Nous sommes comme Saint Jean. Il est l'ami de l'époux. Et alors, depuis que nous sommes baptisés, ne sommes-nous pas aussi l'ami ou les amis, mais nous ne faisons qu'un. Donc je veux dire, nous sommes aussi l'ami de l'époux. Donc quand il est sur la DSIS, c'est nous qu'il représente. C'est nous qui sommes avec lui. Et c'est nous qui sommes illuminés par le Pantocrator qui est à côté, auprès duquel il est. Il est témoin. Voici l'agneau de Dieu. Et ça, c'est aussi notre vocation. Pas forcément verbalement, mais par notre genre de vie, par notre prière, par notre conversion, par l'essai de mettre notre vie en conformité avec les exigences de cette foi, notamment avec cette vision, ce pressentiment de la venue inéluctable du Sauveur à la seconde parousie. Nous sommes aussi témoins de l'agneau de Dieu. Lui était témoin de l'agneau de Dieu qui se révélait et qui allait mourir et ressusciter quelques 3 ans après. Nous sommes nous aussi les témoins de l'agneau de Dieu qui revient en gloire et que nous attendons de toute notre force et de toute notre foi. Au baptême, Saint Jean précurseur, malgré son indignité, a touché le Verbe de Dieu, a touché la lumière divine, a touché le feu de la divinité. Et nous, quand nous communions au corps du Christ, nous sommes aussi en contact avec ce feu divin. D'ailleurs, lorsque nous communions, le prêtre prend une pince, la cuillère avec laquelle on communie s'appelle des pincettes. Des pincettes, le nom vient du fait que le prophète Isaïe, arguant de son incapacité d'éloquence pour aller prêcher le Dieu qui devait venir, le Messie qui devait venir au peuple d'Israël rebelle, un ange, un séraphin lui est apparu et a pris avec les pincettes liturgiques avec lesquelles on mettait l'encens sur l'autel des parfums. Il a pris cette pincette, on a pris un charbon ardent et on a touché les lèvres du prophète en disant « Ceci te purifie ». Et le prêtre prend donc le charbon ardent qui est la lumière divine, qui est le Christ transfiguré, le feu de la divinité. Il le prend du calice et le pose sur les lèvres de chacun de ceux qui communient, en disant « Ceci a touché tes lèvres, effacé tes fautes et pardonné tes iniquités », reprenant la phrase du séraphin avec Isaïe. On n'a pas de diacre chez nous qui célèbre, mais quand pendant la liturgie, quand il y a un diacre, le diacre qui habituellement son étole, son horarion, qui vient d'un côté, qui fait le tour de son cou et qu'il tient avec la main, un tout petit peu avant la communion, déplie cette étole-là et la met de manière à ce qu'elle soit croisée dans le dos et croisée sur la poitrine, évoquant, symbolisant à ce moment-là les ailes du séraphin. Puisque ce séraphin-là, l'Église va donner le feu divin à ceux qui viennent communier. Donc, encore sous cet aspect-là, Saint Jean-Baptiste est notre précurseur. La tentation de la foi, vous, comme Saint Jean le Baptiste l'a eu, je ne sais pas si vous l'avez, mais elle est courante. Il est normal que nous soyons confrontés à cette incompréhension du monde de l'au-delà, alors que nous sommes encore ici-bas, dans ce monde déchu. Donc, nous avons nous aussi la tentation de vouloir secouer le Messie en disant, mais enfin, agis, enfin, fais quelque chose dans le monde, sauve. Mais c'est un manque de foi. Nous devrions avoir la joie et la certitude que ce Messie, justement, pourtant apparemment silencieux, mort, mais invisiblement ressuscité, mais réellement, réellement présent, que celui-ci sauve aujourd'hui son monde. Et pas d'une manière globale, mais nous sauve tous qui sommes dans le monde. Et prend soin de nous à chaque instant de notre vie, et dans laquelle rien ne peut nous arriver, si ce n'est avec la permission de Dieu, avec le vouloir de Dieu en quelque sorte, qui sait par quel chemin nous devons passer pour être libérés de toutes les obscurités, toutes les ténèbres qui sont en nous, pour nous transfigurer et nous amener, nous permettre de lâcher enfin ce monde déchu dans lequel nous sommes pour que nous sommes en partie, de manière à pouvoir accéder dans ce royaume qu'il nous a promis et auquel malgré tout nous croyons et que nous attendons. Nous essayons tous dans ce cadre-là de faire une œuvre. Nous essayons de nous convertir, nous essayons de jeûner, nous essayons de prier et d'autres choses. Nous essayons d'avoir un peu de foi. Mais à certains moments de notre vie, et je crois plus on avance vers l'aboutissement de notre vie, plus on en est conscient, on a l'impression d'une paralysie, on a l'impression d'un effondrement, que rien de ce qu'on a fait n'est efficace, que plus on avance, plus on s'éloigne de Dieu, moins on est sensible à la réception de Dieu. Et ça s'achève avec la mort, qui est l'effondrement inéluctable, mais glorieux. Et face à cette réalité-là, nous ne pouvons faire que comme Jean-Baptiste, qui nous a précédés, nous abandonner, nous détacher, et dire au fond de notre cœur, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse dans mon cœur et que je diminue dans mon corps. Il faut qu'il croisse dans mon âme et que je diminue, moi, dans mon humanité, tout en restant homme, bien sûr, puisque je suis une personne humaine. Et puis souvent, et on le sent peut-être plus particulièrement aujourd'hui, parce que c'est le thème de beaucoup, souvent, enfin, c'est pas le thème de beaucoup, c'est le thème de tous. Souvent, nous sommes appelés à passer par le martyr. Pas simplement le martyr sanglant, sous quelque forme qu'il soit, sous une forme violente, disons, mais par le martyr de tous les jours. Quand Thomas me fait des méchancetés et que je suis obligé de le supporter quand même pendant la liturgie, c'est un martyr. Inutile de vous dire que ce n'est pas le cas. De mille manières, je n'ai pas besoin de vous les décrire, tous. Vous avez votre martyr, et nous avons notre martyr dans la vie. Martyr dont on est victime, martyr au devant duquel on court quelquefois. Mais de toute manière, martyr est toujours, toujours douloureux. Mais ce martyr-là est aussi, toutes ces formes de martyr sont aussi notre manière d'adhérer, notre manière de rendre grâce à Dieu, d'adhérer à l'action créatrice de Dieu qui fait de nous des hommes nouveaux, qui fait de nous des hommes éternels, des hommes devenu Christ, d'autres à être le Christ. Donc comme Saint Jean, prophète encore et précurseur, nous devance sur ce chemin du martyr. Et je répète encore sous toutes ses formes, je suis pas en train de vous annoncer que des assassins vont venir avec des mitraillettes vous auxire à la sortie du réfectoire. Qu'ils attendent simplement la barrière d'en bas. S'il en est ainsi, or s'il en est ainsi, humblement, en assumant nous aussi nos pressentiments, en assumant nous aussi nos doutes, en assumant notre détachement, en assumant notre martyr, même s'il est douloureux, un martyr est douloureux, en assumant notre témoignage sur la vie d'un au-delà, la vie de Dieu. Ça aussi, c'est un martyr, double martyr, parce que martyr veut dire témoignage. Ce témoignage-là est dur. Si vous voulez vivre en chrétien, je n'ai pas besoin de vous décrire comment vous êtes rejeté par l'esprit du monde, pas par tous les gens du monde, mais par l'esprit du monde, et comment vous retrouvez seul. Mais loin de nous en morfondre, en souffrant réellement, mais sans gémir, sans nous révolter, si nous avons avec Saint Jean le Baptiste cette expression, il faut qu'il croisse et que je diminue, alors de quoi avoir peur? Rien de ce qui nous arrive, rien ne peut nous arriver si ce n'est par la permission et la bénédiction de Dieu. Rien. Donc, il faut être libre et il ne faut pas avoir peur. Il faut que notre cœur soit libre de toute chose. Libre ne veut pas dire de faire n'importe quoi, mais intérieurement, on fait suivant notre conscience et rien de négatif peut nous arriver. Quand j'appelle rien de négatif, évidemment, je ne dis pas qu'un accident ne peut pas arriver, qu'une maladie ne peut pas arriver, qu'une trahison ne peut pas arriver. Tout ça, c'est des choses humaines. Mais c'est quoi ça? C'est notre histoire bassement humaine, si vous voulez. Ça n'a rien de la vraie vie. C'est épisodique, c'est anecdotique. Et si on ne vit qu'à ce niveau-là, si on ne laisse pas croître, et si ça, c'est-à-dire nous ne diminuons pas, si ça ne diminue pas en nous, on ne peut qu'être malheureux, parce qu'on se renferme sur nous et on a peur de toute chose. Alors que les Saint Jean nous a montré la voie de la liberté, il l'a payée de son sang, mais nous aussi, nous sommes des êtres libres que nous payons de notre sang, mais gardons cette liberté-là, parce que c'est une liberté éternelle, la liberté des enfants de Dieu. À lui soit la gloire, Père, Fils et Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.